Alright.
Now, ladies and gentlemen, this is Rockers.
Roger El Frigante.
Voilà, quelle est ma propre...
Pas tout à fait. Tom?
Tom, pardon?
J'ai même pas eu le temps.
Il a pas dit sans oublier.
Bah oui, sans oublier.
Sans oublier Roger Biss au micro vert, mon ami imaginaire qui est avec moi depuis très longtemps.
Oui, mais ça c'est notre histoire. On en parlera tout à l'heure. Là, Tom, il est bien là. Il a pas fait de blanc, de conneries.
Pas encore.
Hein, non, maintenant que la famille n'écoute plus, c'est là où vous allez. C'est peut-être le stress de la famille qui vous écoutait au-delà de la France, qui vous a fait un petit peu merder la semaine dernière. Mais c'est des choses qui arrivent. Le temps. Justement, qu'on s'est rouillé à cause de la pluie, c'est normal.
Non, si vous portiez un chapeau, vous ne seriez pas rouillé, mon bon Jean-Loup, et vous ne rameriez pas au micro. C'est parti, un petit link de programmation
À Tom.
À Tom.
C'est quoi?
C'est
Millie Small avec My Boy Lollipop.
Voilà. C'est un morceau soigneusement choisi.
Bien sûr, 1:53.
Le mettre parce qu'il était en lien avec l'émission, naturellement.
Bah, non, vous n'avez pas annoncé encore ce que ça allait être.
Oui, parce qu'il était court, tout simplement. Ouais, allez, c'est parti. Allez. Hop. Elle a écrit.
Hello.
Voilà une émission qui commence sous la pluie, mais qui se réchauffe quand même avec une programmation, à défaut d'avoir été finement choisie, a au moins le mérite de nous réjouir et de nous réchauffer le cœur en cet automne sinistre.
Bon, comme vous y allez, bref, vous écoutez les Grignoux, on l'a même pas dit, le mercredi, le dimanche, et pareil, vous tapez les Grignoux sur n'importe quel moteur de recherche, et hop, c'est bon, vous tombez sur les émissions précédentes, et ce soir, une émission bourrée.
Une émission bourrée, puisque nous recevrons en toute première partie Monsieur Frédéric Vial. Frédéric Vial, c'est le responsable du collectif Non aux Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est bien ça,
ah, hein? Ouais, quand même.
Hein. 2024, 100 ans pile poil après 1924. Ça, je ne le savais pas. J'ai découvert à l'occasion de ce truc-là.
C'est pour ça que les Parisiens y tenaient absolument que ce soit 2024.
Alors, je ne sais pas si les Parisiens y tenaient. En tout cas, Monsieur Frédéric Vial et tous les gens de son collectif n'y tiennent pas absolument. En plus de ça, moi, ça tombe bien parce que ça faisait longtemps que les Jeux Olympiques m'emmerdent. Alors là, c'est pour des tas de raisons, sûrement, que Monsieur Frédéric Vial. Mais ça me fait plaisir de rencontrer quelqu'un qui, à travers d'autres aspects, cette fois-ci plus concrets, ne serait-ce qu'en termes financiers, nous va nous expliquer pourquoi les JO de Paris vont être encore un grand trou comblé par le contribuable. Et en deuxième partie d'émission, nous recevrons Monsieur Jérémy Grandière, président de l'association de pêche d'une région un petit peu impactée à la fin de l'été, vous savez, la Seiche. La Seiche, moi j'ai toujours trouvé que c'était, quand je suis arrivé sur Rennes, un drôle de nom pour
un ruisseau, oui, une rivière.
En fait, c'est pas un ruisseau, hein, c'est un affluent de la Vilaine. Et c'est quand même assez large, avec un bon débit et avec une faune et une flore qui se développaient. C'était de plus en plus poissonneux, giboyeux même.
Mais comment vous savez tout ça en fait?
Parce que je me promène un petit peu. Il m'arrive de quitter, de passer au-delà du périphérique, mon bon Jean-Loup.
Ça m'impressionne,
il y a des gens qui le font.
Vous n'allez pas pêcher là-bas quand même?
Non, je ne pêche plus, mon bon Jean-Loup. Et de toute façon, quand bien même je voudrais pêcher, là, je ne pourrais plus, puisque la Seiche a été polluée par une usine détenue par Lactalis, si je dis pas de conneries. Et bah voilà, en fait, ils ont rejeté, ils avaient l'habitude de rejeter des tas de trucs, mais cet été, curieusement, bah il n'a pas plu tant que ça, finalement. Et bah Lactalis a largué, et plus que de raison, résultat des courses, aux dernières nouvelles, on en serait entre 4 et 5, enfin 4 tonnes, déjà pesées dans le dernier article que j'avais trouvé, de poissons morts. Ça fait quand même un peu beaucoup, et une vieille formule qui figurait sur un autocollant que mon frangin avait collé sur l'arrière de sa voiture, c'était la Fédération de pêche de Saint-Brieuc à l'époque qui disait, lorsque le poisson meurt, l'homme est menacé, et ben c'est peut-être un petit peu à ça qu'il faudrait qu'on réfléchisse.
C'est interdit de faire ce qu'ils ont fait Lactalis.
Eh ben voilà, monsieur,
vous inquiétez
Jérémy
pas.
Va nous en dire un peu plus. Et bah, il y a eu des plaintes. Et ben voilà, vous savez comment est la justice française.
Elle est lente et elle est financièrement onéreuse.
Voilà. Allez, et auparavant, naturellement, la rubrique des Grignoux jusqu'à environ 20h25.
Voilà.
C'est maintenant devenu une habitude, les grignoux ont en chaque début d'émission et chacun leur tour une rubrique personnelle.
C'est ça en fait, tu vois le truc.
C'est ça Philou, t'as tout compris, c'est un petit peu entre le clin d'œil, le coup de gueule du moment, mais aussi le détail de la vie trépidante d'un grignoux.
C'est ça en fait, tu vois le truc.
Maintenant, le problème va être de savoir qui a l'honneur d'ouvrir le micro aujourd'hui. Et ça, c'est pas facile.
Attendez, attends, attends, tu me laisses parler, mais tu me laisses parler.
Ah, il est en train de me tirer par la violence, oh, mais ça vous coûterait.
C'est ça en fait, tu vois le truc.
Et oui, c'est ça la rubrique perso.
Allez, rubrique à voilà, au tordu qui se marre. Bah, enfin, Roger.
Il y a Cosmaré qu'on nous voit.
Moi je pleure, je le dis plus parce que c'est la private joke. Bref, allez, c'est allons-y. Parti. Allez, on va. Je suis sûr que ça va vous faire rebondir aussi, mon bon Jean-Loup. Parlons un petit peu du budget 2018. D'habitude, je m'occupe jamais moi du budget, mais là, c'est rigolo. C'est quand même le premier budget Macron. Budget Macron très équilibré, hein, puisque c'est la fin de l'ISF et des mais la fin de l'ISF et le plafonnement. Vous savez comment dirais-je pour les impôts, c'est-à-dire que plus vous êtes riche, en fait, moins vous payez d'impôts. Quelque part, c'est un petit peu ça, ce qui me fait penser à une vieille blague. Alors, je me demande, c'est pas Coluche qui disait ça, que le centre, c'est pas ni gauche ni droite, c'est ni gauche ni gauche. En fait, le centre, c'est la droite. Et on le voit bien avec, les accoquinements de, ne serait-ce que, comment, à Macron avec Gattaz. Gattaz qui a sorti un super track très rigolo. Si l'école faisait son travail, j'aurais du travail. Alors là, ça me permet.
Il l'a retiré, mais bon, sous la pression,
ouais. Ouais, apparemment, même le gouvernement, si, des excuses.
Dans ce cas, si les prêtons faisaient leur boulot auprès des apprentis, pas les exploiter à faire en restauration, à être traités comme des merdes, par exemple, pour leur faire que de la plonge et quand ils passent leur CAP ou quand ils craquent pas avant, ouais, peut-être que si les patrons jouaient le jeu, l'apprentissage marcherait. Il y a des questions à se poser, c'est pourquoi sur 100 contrats signés en apprentissage, il y en a 20 qui déboussent sur un diplôme. Il y a un petit problème dans le cadre scolaire, c'est l'inverse. C'est sur 100 grands bac pro,
100 gamins etc., qui rentrent, il y en a que 20 qui partent.
Il y a 80 en fait qui décrochent un diplôme.
Ben ouais. Et ça me fait penser à Gattaz, il avait fait un deal avec Hollande, pareil le même genre de deal là, parce qu'en fait pourquoi Macron baisse l'impôt des riches, il faut le rappeler un peu aux auditeurs les plus jeunes, c'est ce qu'on appelle une vieille théorie libérale qu'on appelle le ruissellement. Le ruissellement les enfants, c'est quelqu'un qui est cousu d'or, un peu comme Oncle Picsou, vous le voyez, vous avez sûrement lu un Picsou. Et Picsou, quand il se lève, il sort, vous voyez, quand il plonge dans son grand réservoir à sous, il saute, et il y a de l'or, des pièces qui ruissellent, et normalement, dans les théories économiques que défendent Macron, et puis tous les libéraux bien avant lui, c'est-à-dire que cet argent-là va nous retomber dessus, mon bon Jean-Loup, comme une espèce de pluie ou de neige, comment bienfaisante, et va occasionner des emplois. Mon cul, les gens qui vont mettre des sous de côté parce qu'ils pourront moins d'impôts, eh ben, ils vont acheter des conneries à l'étranger, ils vont acheter du matos, fabriqué à l'étranger, point barre. Si ce modèle avait comment fourni des preuves, ça fait longtemps qu'on le saurait, puisque c'est toujours le même.
Mais bon, Macron, en moins, il m'a appris quelque chose. Vous savez, l'histoire, hausse de la CSG, mais 80% d'une classe d'âge me paiera plus d'impôts locaux. Vu ce que je raque sur elle, je dis, allez, je vais perdre un côté, mais je vais pouvoir me rattraper de l'autre. Eh ben, merci monsieur Macron, je viens de m'apercevoir que je fais partie des 20% des Français les plus riches.
Eh oui.
Eh ben, ça me rassure.
Donc, vous l'avez deux fois dans le cululu, vous paierez vos impôts locaux et vous aurez de la CSG.
Et n'oubliez pas que le revenu qui est annoncé, c'est pas net, c'est brut. Donc, si vous gagnez, je sais pas, je crois que c'est 30 000 euros. Bref, si vous êtes là, j'ai calculé, je suis à 28 000 euros par an, bien sûr, net. Et vous l'avez dans le cul parce que, en brut, vous le dépassez largement. Voilà.
Ce qui va expliquer pourquoi les retraités qui vont gagner quand même la somme incroyable de 1 700 euros par mois vont être taxés désormais à la CSG. Ils vont perdre 250 euros. Pour Macron, 250 euros, c'est le pourboire qu'il donne au restaurant. 250 euros, monsieur Macron, c'est énormément de choses pour des retraités qui gagnent 1700 boules.
Et je me demande aussi quel est le pourcentage, on parle de 80%, je reviens sur mes histoires de pourcentage, de gens qui ne paieront pas la taxe d'habitation, mais aujourd'hui, c'est quoi le pourcentage? Pareil, quand on parle des impôts, ça se trouve c'est 40%, il suffit que vous gagnez le SMIC avec deux ou trois gamins, et c'est bon, vous ne payez pas de taxe d'habitation, je trouve ça tout à fait normal, quelque part, quoi. Donc si c'est pour passer de 50 à 80, mais c'est quand même mieux, en fait. Et je je fais partie des 20%
les plus riches. Eh ben voilà. Alors, pour finir avec Macron, après on se mettra un petit dix, mais moi je trouve qu'il est quand même un peu génial, et puis les médias sont un petit peu complices. Vous savez, d'habitude, il y avait toujours le fameux baromètre du chômage, hein, le baromètre du chômage, mois après mois, on négrenait les chiffres du chômage, et là-dessus, d'ailleurs, Hollande avait joué comme au poker son renouvellement, enfin sa représentation aux élections présidentielles en fonction du chiffre du chômage.
Sauf qu'elle arrive au mois de juin, la baisse.
Et il a perdu Lulu, il est parti, bon joueur, sauf que là, Macron, la ministre du Travail, a dit non. Je ne commenterai plus ces chiffres. En clair, vous êtes malade. Ce qu'il y a de rigolo, c'est que un décide de ne plus commenter ces chiffres, et du coup, eh bien, les journalistes ne les commentent plus non plus. Je sais que les chiffres sont mauvais. Est-ce que vous savez de combien? Ben non.
Ben de rien.
On ne sait pas. En fait, ils ont dit non, désormais, on commentera éventuellement l'indice INSEE, un indice INSEE qui est peut-être, en tout cas, plus favorable au gouvernement. Ce qui me fait penser toujours à une espèce de vieille formule, à défaut de vous soigner, on change de thermomètre. C'est vraiment un garçon qui est malin.
Oui, il est très malin. Et vous avez vu, avant de mettre le petit disque, on conclut là-dessus, les grèves qu'allait mettre à terre le gouvernement Macron, et ben hop, la première du 10 septembre, un truc comme ça, ça l'a fait. La deuxième, j'ai même pas entendu parler, je sais même pas qu'il y avait grève. La France Insoumise, elle est passée. Vous avez vu le mini-scandale?
Alors, le problème de la Mélenchon, je crois qu'il y a eu pas mal de monde. Il y a eu pas mal de monde à sa manif. Mais le problème de la Mélenchon, c'est comme il insulte tous les journalistes, il gueule comme une vache. Du coup, j'ai l'impression qu'il est victime quand même. Parce que ça, c'est surprenant. Hein, la manif avait lieu le samedi, c'est ça?
Oui, allez-y.
Et dès le dimanche, plus personne n'en parlait. Je trouvais ça un peu bizarre. Et du coup, ça m'a renvoyé quand même à pas mal de... Il y a pas plus tard qu'il y a une semaine, je crois, qu'il a traité de fasciste encore un journaliste de je sais plus quelle chaîne de télé ou de je sais plus quoi. Il faut que tu te calmes, la Mélenchon, il faut que tu te calmes, parce qu'après, du coup, ils te font plus passer, tu vas être obligé de finir chez les grillous à Canal B.
Je suis même pas sûr, parce que du coup, il serait pire.
Il va nous engueuler.
Ah, mais non, il serait pire que vous. Il n'y aurait plus de micro, tout simplement. On a le droit de s'exprimer, mais s'il nous laisse son petit micro personnel...
Ça serait un challenge, mais je crois que j'espère qu'il va pas nous taper dessus.
Mais bon, et pour conclure, ouais, les routiers blocage la France. Je voyais déjà des fils qui faisaient la queue pour faire le... c'est redondant. Bref, les automobilistes qui faisaient la queue pour prendre de l'essence dès le dimanche soir ou le dimanche après-midi. Et en fait, les pauvres, rien. Faible mobilisation, on n'en parle même plus, rien.
Et moi, ça me fait penser à révolution. Il y a quand même des vieux qui avaient commencé à stocker de l'essence. Et...
Mais je crois que le père Macron... Il est pépère, hein. L'opposition, elle sera pas dans la rue, forcément, quoi.
Mais vous savez, moi j'ai toujours pensé, mon bon Jean-Loup, que l'histoire est une savonnette. On ne sait pas ce que l'avenir nous prépare. Allez, un petit dix, et pendant ce temps, une ou deux vite nouvelles, et puis on va embrayer vite fait avec comment le collectif non aux Jeux Olympiques en 2024. 2024, je pensais, je ne sais même pas si je serai encore vivant.
Mais si vous attendez, vous serez... Évidemment, vous allez être vivant.
7 ans, quand même.
Oui.
Putain, c'est top.
Ouïouïouïouïouï, aïe aïe aïe, oulala, il va se passer quelque chose de bizarre sur cette antenne. Je le sens pas, je sais pas pourquoi. Ça doit être quand j'ai l'info comme quoi les grignoux vont parler de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. L'effort physique, vous connaissez sûrement, eux pas. Le vrai effort physique, j'entends, celui qui fait se dépasser l'homme, qui lui permet de connaître ses limites, voire même d'apprendre la communion avec les autres. Mais bon, le sport est-il le petit frère de la guerre ? Sport pour les hommes, les vrais.
Alors là, c'est assez incroyable. Je me rappelais plus de ce générique, mais il tombe à point nommé. Ça nous rajeunit pas. On avait dû le faire pour les Jeux Olympiques de Séoul. Allez savoir. Et nous sommes ravis ce soir de recevoir Monsieur Frédéric Vial. Bonsoir.
Bonsoir.
Ah, je vous entends très bien. Vous nous entendez?
Ah, très bien, oui.
Ouais, super. Donc du coup, c'est moi qui vous ai contacté, hein. Je suis en compagnie de Jean-Loup, on sera deux à vous faire un petit peu de misère tout à l'heure, mais vous êtes le président, porte-parole, on peut vous présenter comment ?
En fait, c'est un collectif qui s'oppose au JO à Paris, et donc on n'a pas de président, on n'a pas de porte-parole, on n'a rien de tout ça. Puisqu'on n'est même pas une association, donc je suis simplement membre de ce collectif.
D'accord. Et vous avez donc la gentillesse de nous prêter un peu de temps ce soir, même de nous le donner, vous savez comment on sait. Et on est une asso, on ne pourra pas vous les rendre. Mais du coup, moi ça me fait plaisir parce que j'ai toujours trouvé depuis fort longtemps, alors certains diront que c'est parce que je suis pas sportif, etc., je n'ai pas l'esprit national, que derrière l'esprit de Pierre de Coubertin se cachait quand même déjà au pire du nationalisme, hein, on a vu ce que ça a donné en 36, et ce que c'est devenu maintenant cette transfiguration aujourd'hui avec cette espèce de business épouvantable, la construction d'infrastructures délirantes, on reviendra là-dessus, qui aujourd'hui ne servent plus, on peut parler de Sochi, on peut parler du Brésil, et voilà que pour des raisons de prestige, il semblerait que, c'est même pas il semblerait, apparemment on a les Jeux Olympiques en 2024, et vous non plus, ça vous fait pas plaisir.
Non, c'est sûr que ça, mais c'est au-delà de moi, hein, si on est quelques-uns à qui ça fait pas plaisir, ouais.
Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, c'est-à-dire donner les raisons justement de ce mouvement quand même, parce que c'est du boulot.
En fait, ce qui nous déplaît dans cette attribution, c'est le fait que ça pose un problème qui est d'abord un problème financier. Et exactement un problème budgétaire. On est à peu près certain dans l'état actuel des choses que, comme d'habitude, le budget va exploser. Mais pas le budget du CIO, du Comité International Olympique, qui lui n'explosera pas, hein. Le CIO fera beaucoup d'argent avec l'opération. Pas le budget des sponsors, qui eux aussi vont faire beaucoup d'argent, mais le budget, la part publique du budget consacré au CIO, c'est-à-dire la part qui est financée par les impôts. Non pas seulement les impôts des Parisiens, des Parisiennes, des gens qui vivent en Île-de-France, mais de l'ensemble des Français, puisque l'État va nécessairement combler la différence au moment de payer l'addition, et l'addition menace d'être effectivement très lourde. Donc ça, c'est la première chose qui nous déplaît, c'est l'éclatement, le dépassement budgétaire. L'autre chose qui nous déplaît aussi, c'est la question écologique, c'est-à-dire que la candidature est présentée comme verte. Vous savez, c'est très à la mode, on peint tout en vert en ce moment. Il y a même un coup de tampon qui a été donné par le WWF, mais c'est pas crédible tout ça. Ça va générer de la pollution nécessairement, ça va générer des déplacements importants de population, donc de la pollution, ça va générer la construction d'infrastructures, etc. Et donc la pollution sera forcément rendez-vous. Et puis finalement, l'argument principal contre les JO, c'est l'argument démocratique au fond. Parce que cet argent qui est utilisé pour faire cette fête éphémère aurait pu être utilisé autrement, aurait pu être utilisé ailleurs. Et au moment où on nous explique à peu près 10 fois par jour qu'il n'y a pas d'argent dans les hôpitaux, il n'y a pas d'argent pour les écoles, il n'y a pas d'argent pour les jeunes, il n'y a pas d'argent pour les vieux, il n'y a d'argent pour rien, eh bien on va faire des dépenses absolument considérables. Et ça, c'est quand même... sans avoir consulté la population, bien entendu.
D'autant plus que, si je dis pas de bêtises, mais vous allez sûrement me corriger, mais il se trouve quand même que, je crois que c'est à Hambourg qu'il y a eu un référendum, et du coup, les gens ont décidé qu'ils n'étaient pas chauds, d'où la défection d'Hambourg. Je dis des bêtises ?
Non, non, c'est ça. Mais en plus de la défection d'Hambourg, il y a quatre autres villes qui ont fait des défections. Et en réalité, Paris était la dernière et la seule candidate, puisque Los Angeles avait déjà dit qu'elle ne voulait pas 2024. Donc c'est pas du tout une victoire. C'est simplement parce que les autres ont été suffisamment intelligents pour ne pas vouloir de cette calamité. Parce qu'à chaque fois, enfin, les gens se rendent compte qu'à chaque fois, c'est une catastrophe, les Jeux Olympiques.
Moi, j'ai une petite question basique à vous poser. Comment ça se passe pour un pays qui veut organiser les Jeux Olympiques, tout simplement? Je sais qu'il y a le CIO qui décide. C'est pas très clair. Est-ce que vous pourriez
éclaircir le rôle du CIO un petit peu?
Ah bah ça c'est quelque chose que je parviendrai pas à faire. le rôle du CIO est extrêmement opaque. Le CIO, le Comité International Olympique, décide. C'est une organisation de droit suisse qui fonctionne sur la cooptation, dans lequel on trouve tout un tas de d'altesses, sérénissimes et autres gens de cet acabit, mais aussi des hommes d'affaires qui ont trempé dans le business du sport et qui sont cooptés donc au sein de ce truc, qui décident de l'attribution sur des critères qui sont quand même extrêmement flous et qui permettent toutes les interprétations, pour le dire gentiment, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que le CIO n'a, comme c'est une organisation de droit suisse, n'est contrôlé, ne donne de compte à personne. On ne sait pas d'où vient son argent. Dans tous les cas, on a juste des suspicions. On sait qu'il garde les droits de retransmission des jeux. On sait qu'il est censé redistribuer cet argent aux fédérations. Mais des fois, on se demande si c'est vrai quand on voit l'état de ruine de certaines fédérations sportives. Je pense par exemple à l'athlétisme en France, mais une parmi d'autres. Et on ne sait pas ce que ça devient en intervalle, en fait, puisqu'on est sur des chiffres qui sont absolument colossaux. Et la manière dont les jeux sont attribués, les tractations, tout ça, c'est quelque chose qui reste extrêmement secret et opaque.
Et le CIO a l'exclusivité des Jeux Olympiques, comme s'ils avaient déposé une marque, si je comprends bien ou j'image bien.
Ah, mais c'est ça. C'est exactement ça. Les Jeux Olympiques fonctionnent comme une affaire. C'est d'abord une marque. Les anneaux sont protégés. Jeux Olympiques, c'est protégé. Enfin, c'est une marque qui relève de la propriété intellectuelle et dont le CIO a l'exploitation. C'est tout à fait ça. Et le CIO n'est pas censé faire des bénéfices. Ce qu'il y a simplement, c'est qu'on ne sait pas les sommes qu'il reçoit. On sait qu'elles sont considérables parce que les droits de retransmission, c'est absolument énorme. Il y a quand même 5 milliards de personnes qui en général regardent les jeux à la télé, donc ça génère, c'est une machine à cash absolument fabuleuse. Et puis ensuite, c'est censé aller dans des fédérations sportives, mais selon des critères et des modes d'attribution qu'on ne connaît pas. Alors ça, on sait que le dirigeant du CIO qui s'appelle Thomas Bach est quelqu'un qui a travaillé pour des marques, pour Adidas par exemple, mais aussi pour d'autres marques. Et que il aime bien le sport business, comme son prédécesseur aime bien le sport business aussi.
Mais alors pourquoi, moi je suis tenté encore de vous poser une question naïve, nous avons normalement des dirigeants éclairés, comment se fait-il qu'ils tombent tous, ou ils semblent tous tomber sous le charme du CIO? Est-ce que c'est pour un peu la vieille, vous savez, mythologie romaine du pain et des jeux pour distraire le peuple?
Il y a forcément ça, il y a forcément le côté, mais d'ailleurs vous l'entendez ça, dire du pain et des jeux. Alors le pain il manque en ce moment, alors des jeux oui. D'ailleurs vous entendez ça, la version qu'on a aujourd'hui c'est de dire ça fait un grand mouvement de communion nationale, vous entendez ce genre de choses.
Ouais.
Comme si les gens qui regardent le sport sont suffisamment stupides pour se dire que leurs problèmes personnels, les problèmes qu'ils rencontrent dans la vie quotidienne, vont disparaître parce qu'il y a des médailles d'or qui arrivent à celui qui a acheté le javelot plus loin ou qui a couru plus vite. Enfin, vous voyez, les gens sont pas spécialement idiots. Ils peuvent regarder le sport et néanmoins se continuer de se rendre compte que leurs problèmes existent. Mais il y a toujours cette vieille illusion.
Et ça semble... Ça semble pas tellement bien marcher parce que je vois un article dans le journal où le jour où on a donné, il pleuvait à Sceaux, je sais pas où c'était à Paris, mais en tout cas, ambiance zéro, personne, juste des journalistes, tout le monde s'en fout en fait.
Il y a une assez grande indifférence. Hein. Ça, c'est vrai que il y a une assez grande indifférence, c'est-à-dire que l'adhésion qu'essaye de susciter la ville de Paris, hein, la maire de Paris, est extrêmement active là-dessus. En réalité, elle n'est pas là, l'adhésion. Hein. Les événements, y compris, vous voyez, même la photo, la publicité qu'on voit, la photo à Paris où on voit sur le pont Alexandre III ou juste devant un grand drapeau où il y a marqué Paris 2024. Ça a l'air d'être une photo où il y a beaucoup de monde. En réalité, si on connaît un peu la topographie des lieux, il y a assez peu de monde. En réalité, ce genre de choses est assez indifférent, je crois, et c'est parfaitement légitime. Les gens sont beaucoup plus préoccupés par leurs problèmes au quotidien, qui sont pour certains suffisamment importants, pour s'encombrer de ce truc. Et puis ils se disent, c'est dans 7 ans. Le seul problème, c'est que c'est pas dans 7 ans. Les décisions vont se prendre entre maintenant et décembre. C'est maintenant que les choses se jouent. Ah. Et ça, c'est quand même assez grave.
Donc une question naïve aussi. Bon, on nous dit ça va coûter cher sur le moment. Mais il faut penser à moyen terme. C'est-à-dire, les infrastructures, peut-être que ça peut être un argument pour les JO en 2024. En plus, la date est très symbolique. Comme par hasard, c'est la dernière fois
qu'on entend.
Oui, c'est ça. C'est l'argument un des arguments principaux des promoteurs des jeux, de dire que il va y avoir des infrastructures et notamment des infrastructures de transport. Sauf que cet argument est totalement réversible, parce que les infrastructures de transport, elles étaient prévues. Il se trouve qu'à Paris, il y a un projet qui s'appelle le Grand Paris, qui prévoit des infrastructures de transport assez pharaoniques. Bon. Qui peuvent être d'ailleurs au demeurant tout à fait critiquables par ailleurs, mais ça c'est encore un autre sujet. Mais elles doivent être terminées en 2030. C'est pas pareil de devoir financer des infrastructures petit à petit jusqu'en 2030 ou de devoir les financer jusqu'en 2024. C'est pas le même prix. Et si on fait un rapide calcul de savoir combien ça coûte d'avancer la date à ce point-là, 2024-2030, eh bien, on s'aperçoit que ça fait un dépassement qui est au-delà des 2 milliards. On peut même dire 2 milliards et demi de dépassement du fait de l'accélération du Grand Paris. 2 milliards et demi. Là, il faut se rendre compte ce que c'est que 2 milliards et demi. C'est énorme. Avec ces 2 milliards et demi, on peut faire beaucoup de piscines, on peut faire beaucoup d'écoles, on peut faire pas mal d'hôpitaux, on peut faire même des très gros hôpitaux. Le plus gros hôpital de France, hôpital de France, c'est Georges Pompidou, à Paris, il a coûté environ 1 milliard. Donc vous voyez ce que ça veut dire, 2 milliards et demi. Et ça, ce n'est que le début. C'est-à-dire qu'il y aura d'autres dépenses encore qui ne sont pas budgétées, comme par exemple la sécurité. Et sur la sécurité, par exemple, on est sur 1 milliard aussi, à vue de nez. Comme ça, si on regarde ce qui s'est passé à Londres, par exemple. Eh bien, tout ça, ça veut dire tout cet argent qui va être littéralement mis en l'air, dépensé pour les JO, on peut quand même légitimement se poser la question de savoir est-ce qu'il ne serait pas plus démocratique de décider qu'on l'utilise autrement. C'est-à-dire que, vous voyez le problème, si on nous disait aujourd'hui qu'on va recruter 1 million d'infirmières, des centaines de milliers d'enseignants, qu'il va y avoir des services publics de transport, etc., qui vont être développés, et que dans le même temps on fait les Jeux Olympiques, on réfléchirait différemment. On aurait un autre problème, mais là on a quand même un souci qui est ce double langage, quoi. Comment ça se fait que d'un côté on parle d'austérité, que de l'autre côté on...
Rien n'est trop beau.
Rien n'est trop beau pour ce truc.
Alors pourquoi, toujours en étant naïf, on pourrait organiser ces JO de manière intelligente. Voilà, ces infrastructures vont rester, on anticipe justement jusqu'en 2030. C'est vraiment le cas ou c'est ponctuel?
Non, parce que le problème des JO, c'est que structurellement, il y a nécessairement des dépassements. Pour une raison très très simple, hein. On revient au CIO, Comité International Olympique. C'est lui un des tout premiers bénéficiaires des Jeux. C'est-à-dire que le CIO, il met de l'argent sur la table pour l'organisation des Jeux, il met 3,8 milliards. Pour 15 jours de Jeux, je sais pas comment on dépasse 3,8 milliards en 15 jours, c'est quelque chose qui échappe à beaucoup de gens, je pense. C'est quelque chose d'assez écœurant dans tout ça, mais enfin bon. le CIO, il ramasse les droits de retransmission. On sait, par exemple, que pour les États-Unis, les droits de retransmission, ça va être 7 milliards. Donc, on peut se dire que ça va être à peu près la même chose pour l'Union européenne, pour l'Europe. Mmh. On ne sait pas combien ça va être pour l'Afrique, pour les autres continents.
Bref, la Chine.
On est sur des chiffres stratosphériques. Mmh. Le CIO prend l'argent et se tire. Donc, et il ne paye pas l'impôt. Attention.
Et c'est en Suisse.
Il y a une loi spécifique qui va être votée, une loi rectificative de finances qui va être votée
en
décembre de cette année, qui dit que le CIO, pas plus que d'ailleurs l'euro de foot, ne paye d'impôts.
Je crois que c'est Hollande qui avait commencé à mettre la main dedans avec la FIFA lors de la Coupe du Monde organisée en France. Hein.
Exactement, c'est vous
Coupe
dire
d'Europe, pardon.
Si les choses étaient bien vues, c'est vrai que ce président aura été un grand visionnaire, hein, c'est le cas de le dire. Enfin, c'est très ironique ce que je dis au cas où. Bon.
Est-ce qu'on peut vous proposer une petite pause musicale et puis hop, on recommence et on vous reprend ensuite?
D'accord.
Super, c'est
gentil. On a plein de questions à vous poser.
Ouais, on est en train de se battre dans le studio, vous ne nous voyez pas, mais on lève la main tous les deux parce qu'on a tout plein de questions à vous poser. Est-ce que vos invités, comment vous avez prévenu vos invités, vous avez avoir un petit peu de retard?
Oui, ils sont en fait, je me suis mis dans une pièce isolée, comme ça eux continuent de s'amuser, en vous écoutant d'ailleurs. En fait.
Ah. Eh bien, à tout de suite alors.
À tout de suite.
Voilà, nous sommes toujours sur l'antenne des Grilloux. Oups, dès que j'aurai réussi à remettre mon casque. Et nous sommes toujours en compagnie de Monsieur Vial pour parler un petit peu de l'organisation de ces fameux Jeux Olympiques 2024. Mais alors du coup, je suis tenté de me poser encore une question naïve. Qu'est-ce qu'on est naïf ici? À savoir, quel recours? Alors vous parlez de référendum dans votre documentation, dans votre communication. Mais comment on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors là, franchement, le référendum, là maintenant,
c'est un peu plié.
Pas plus vraiment, c'est un peu plié parce que ça quand même, c'était le cas, ça aurait été intelligent avant, mais maintenant c'est un peu tard. Mmh. Alors, ce qu'on se propose de faire en réalité, c'est d'alerter la population sur tout ce qui va se passer. C'est-à-dire, on sait qu'il va se passer tout un tas d'opérations d'urbanisme, par exemple à Saint-Denis. Vous voyez, à Saint-Denis, qui est une ville juste à côté de Paris, hein, qui est dans la banlieue et qui va avoir beaucoup d'infrastructures de Jeux Olympiques. En fait, il y a beaucoup de quartiers qui vont sauter, qui vont dégager en fait, hein, qui vont vraiment être pétés. Et c'est pas indiqué dans le dossier de candidature, mais sur place, eh ben, on commence à voir arriver dans le plan d'urbanisme, etc. Donc alerter les populations, donc obtenir des éclaircissements, donc obtenir aussi des renseignements sur ce qui est dépensé réellement. Et puis au fond, ce qu'on ambitionne de faire, c'est de faire de cette affaire-là un enjeu politique. Parce que il y a des élections qui arrivent dans pas si longtemps que ça, les élections municipales, c'est en 20 ou 21. Et donc là, on va en faire un enjeu politique. Et puis, on n'oublie pas qu'il y a quand même une ville qui s'est retirée après avoir obtenu l'attribution. C'est Denver 1976, et donc on a l'ambition de faire pareil. C'est-à-dire de faire en sorte que les élus qu'on aura changés, prendre les nouveaux élus qu'on aura décidé, enfin qu'on aura contribué à faire élire, on espère, aux nouvelles élections, retirent la candidature.
Alors justement, quel parti s'oppose à ça?
Oh, il n'y en a pas beaucoup. il n'y en a pas beaucoup. Il y a tous les partis qui vont, on va dire, du gouvernement jusqu'à la pseudo-opposition, que sont les Républicains ou le Parti Socialiste. Maintenant, on appelle ça Nouvelle Gauche, je crois. Enfin, qui est une gauche et nouvelle entre nous, mais enfin, bon, ça, c'est un autre sujet. Ceux-là, ils sont globalement pour. Les seuls appuis qu'on ait dans les partis politiques, c'est des membres des Verts. On a notamment des élus Verts à la ville de Paris, notamment le maire du 2e arrondissement qui s'est clairement prononcé contre. Et on a aussi, il y a aussi une élue de la ville de Paris qui fait partie de France Insoumise et qui s'est prononcée contre. Maintenant, les alliés politiques. Ça se trouve, hein, les alliés politiques, quand ils s'aperçoivent, les élus, les responsables politiques, quand ils s'aperçoivent que les gens s'organisent et ne veulent pas quelque chose, eh bien, ils comprennent les choses, hein, s'ils se rendent compte qu'il y va de leur survie politique, ils comprennent. Hein. Donc on va trouver des alliés, on n'est pas très inquiet pour ça.
Mais imaginons, je sais pas moi, allez hop, en 2020, en 2021, 2022, mouvement, population, référendum, on dit bah non, on les organise pas ces JO en 2024. On a quand même, je pense, signé un contrat ou des accords avec le CIO. C'est-à-dire qu'on va se prendre une amende. Est-ce que l'amende ne sera pas plus chère? Ça me rappelle l'écotaxe où finalement le dispositif a coûté beaucoup plus cher à mettre en place que de ce qu'il a rapporté. Finalement, ce petit jeu-là, est-ce qu'on ne serait pas perdant?
Eh ben, figurez-vous, je peux pas vous répondre.
Ah, voilà. Nous, chez les Grignoux, on aime bien poser les vraies questions.
Non, je peux pas vous répondre parce qu'en fait, on n'a pas le détail du contrat. Non, on n'a pas le détail du contrat. On n'a pas le détail de la ville haute, comme on dit. On n'a pas tout ça. Alors, on va l'obtenir. C'est parce que tous ces documents, ça finit toujours par fuiter, donc on va finir par l'avoir. Mais dans le cadre de l'opacité de fonctionnement du CIO, on ne sait pas tout ça. Et on ne sait pas comment les choses sont verrouillées, si elles le sont et comment.
Alors est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, des multiplications de résistances locales en s'appuyant sur les gens qui vont être expulsés, sur les parcs qu'on va péter? D'ailleurs, dans le cadre enchaîné la semaine dernière, c'est Jean-Luc Porquet, là, dans sa rubrique, qui disait, oui, ouais, on va péter un parc, qu'est-ce qu'on a à foutre, après tout, on n'a pas besoin de parcs à Paris, c'est vrai qu'il y en a déjà suffisamment. Et est-ce que une multitude de grains de sable, je dirais, ne pourrait peut-être pas enrayer la machine CIO à défaut d'avoir un espèce de combat frontal pot de fer contre pot de terre?
Bon, bah, c'est ce qu'on essaye de faire. Hein. Ah. Parce que, oui, par exemple, là, sur le parc de Bercy, on a commencé à faire une petite action, on a fait déjà une action sur le. À ce propos, on veut faire monter la prise de conscience des riverains, des gens qui y vont. C'est un beau parc, par exemple, Bercy, dans le 13e, bon, la moitié, ou à peu près, va sauter. C'est sûr que les gens vont pas être contents. Donc, on compte sur ce genre de multiplication, mais il y a d'autres endroits comme ça qui vont aussi générer des résistances. Vous savez, à Saint-Denis, quand il va être question de péter des quartiers entiers, de raser des lycées, de déplacer des gens... voilà, les prises de conscience vont se faire naturellement, et c'est là où on espère aussi opérer un certain nombre de résistances. Alors, on n'est pas complètement non plus hors sol, c'est-à-dire qu'on a bien vu comment ça s'est passé à Rio. Néanmoins,
parce qu'il y a eu des manifs sur la fin, il y a eu pas mal de manifs.
Voilà, c'est ça, c'est sur la fin que ça s'est fait, en effet, et nous on espère faire les choses avant qu'il soit trop tard, si c'est encore possible. Mais comme vous avez dit, il y a une incertitude qui est réelle, on ne connaît pas la teneur de du contrat qui est passé avec le CIO. On peut faire confiance à ces gens-là pour avoir bétonné juridiquement au maximum. Maintenant, en droit, il n'y a jamais de situation qui soit totalement irréversible, jamais, ça n'existe pas. Ensuite, il y a une incertitude incontestable. On ne sait pas ce que coûterait le fait de se délier de cette candidature-là. Et donc, ça fait partie aussi des revendications qu'on va avoir, d'avoir des informations sur le type de contrat qui a été passé.
Et une petite question naïve aussi à vous poser, parce qu'on parle des JO de Paris. Les JO, c'est attribué à une ville ou à un pays ?
C'est attribué à un pays. En fait, il y a d'abord une ville qui est la ville de Paris, mais en réalité, ça va être beaucoup Saint-Denis, en fait, dans le nord de Paris, qui est une banlieue tout à fait populaire, où il y a le Stade de France, d'ailleurs, déjà, et où vont être construits, finalement, les trois grosses infrastructures qui vont être construites sur Paris. Il y aura une partie des Jeux aussi qui déroulera à Marseille, notamment les frégates. J'ai cru comprendre aussi qu'il y en avait du côté de La Rochelle. Mais l'essentiel, c'est Saint-Denis, d'abord, Paris, Marseille, et puis quelques autres encore.
C'est ça, j'ai du mal à comprendre, parce qu'on se dit, c'est la France qui organise en 2014, et on pourrait penser qu'à Rennes, on a failli avoir une piscine olympique. Alors, je sais pas si vous connaissez l'anecdote, c'est qu'il manque un centimètre ou un demi-centimètre pour que ce soit réellement olympique. Mais bon, creuser dans le béton d'un centimètre ou un demi-centimètre pour mettre la piscine aux normes, ça coûterait beaucoup moins cher, que d'en faire une autre toute neuve, en sachant qu'il y a la LGV maintenant, Rennes à 1h20 de Paris. C'est vrai que dans ma naïveté, je pensais que les Jeux Olympiques n'étaient pas concentrés à 80 ou 90% sur Paris, mais auraient été répartis un peu partout dans les grandes villes, Marseille, Lyon, Rennes,
facilement accessibles.
Non, ça ne va pas se passer exactement comme ça. Il va y avoir d'abord la ville haute, Paris et Saint-Denis. En fait, Saint-Denis étant perçu en réalité comme un satellite de Paris dans cette affaire. C'est peut-être très agréable pour les gens qui habitent Saint-Denis, mais en réalité, Paris a pris la main sur la question. Et notamment l'activiste de Madame Hidalgo.
Qui était contre il y a peu de temps d'ailleurs.
Oui, qui était contre et puis qui est devenue pour. Et puis on sait aussi, elle nous explique, parce qu'elle a changé d'avis pour de bonnes raisons, qui est qu'elle a eu les assurances que ça n'exploserait pas. Sauf que les assurances que ça n'exploserait pas, en réalité, elle les a pas eues et qu'on a tout à fait l'assurance que ça va exploser. Alors, donc il y a l'activisme de la ville de Paris, et donc il y a accessoirement quelques petites choses qui vont se passer en dehors de Paris. Oui.
Alors, il y a un truc moi qui m'exaspère aussi, c'est pour les Parisiens, il va y avoir une espèce d'impact sécuritaire qui va être apocalyptique, c'est-à-dire que je ne sais pas vraiment comment ils vont faire ça.
Surtout dans le froid. Là.
Et du coup, vous connaissez les barbus, ils sont jamais les derniers pour la déconne. Imaginons qu'il y ait encore des attentats tout pourris, la facture sécurité va forcément exploser.
Oui, là c'est vraiment une des craintes.
C'est un truc de démon, ça. On nous dit qu'on est pratiquement en guerre et on organise des jeux aux dépens de la sécurité des citoyens quelque part.
Alors, d'autant que on nous dit que le budget de la sécurité n'est pas programmé, parce que de toute façon les forces de police et l'armée qui est déjà présente, et donc on n'a pas besoin de recruter des gens supplémentaires. Mais c'est faux. C'est faux parce que si on est à effectif constant, ça veut dire qu'il va falloir dégarnir d'autres fronts. Il va falloir dégarnir des fronts militaires et des fronts de sécurité intérieure. Et ça, bien entendu, ni le ministère de l'Intérieur, ni le ministère des Armées n'en parle. Ça, c'est vraiment motus et bouche cousue. Mais par rapport à ce que vous disiez sur le sécuritaire, il est tout à fait clair que les lois, d'ailleurs, il y a aujourd'hui, a été votée encore une loi sécuritaire supplémentaire ces lois sécuritaires ne sont pas prêtes d'être arrêtées dans l'optique de ce genre de gros événements. D'autant plus que après 2024 est prévue aussi l'exposition universelle, donc 2025.
Ça pourrait faire d'une pierre deux coups quelque part.
Oui, ça ferait d'une pierre deux coups. Mais vous savez, en matière de sécurité, les coups s'accumulent, hein, ils ne se divisent pas.
Est-ce qu'on peut s'écouter un dernier petit dix et puis après
on vous prendra quelques minutes pour
conclure. Parce qu'il y a aussi tout un volet. Il y a aussi. Si vous avez encore.
J'ai mes amis qui m'attendent avec une bouteille de vin. Là, ils ont soif.
Ah bah, c'est vrai. On peut mettre un morceau assez long éventuellement et vous pouvez d'autres.
Non.
Ok.
Au contraire, c'est un morceau court. C'est très vieux. C'est un morceau en référence aux Jeux Olympiques de Séoul. C'est un peu tout ce que j'ai trouvé dans ma discothèque. C'est parti. Vous allez voir. J'avais des cheveux à l'époque. Mais oui, c'est bien éclair. Mais oui, quel groupe de rock pouvait bien nous parler des Jeux Olympiques, mis à part Ludwig von 88. Donc, on a parlé de la sécurité, et il y a tout un volet que j'ai repiqué sur votre site. C'est la lettre ouverte aux 5 syndicats soutenant la candidature de Paris au JO 2024. Parce qu'il y a tout un volet, parce qu'avec le CIO arrive toute une nouvelle forme de contrat de travail plus ou moins exotique qui vont du bénévolat de base où on se fait avoir, on vous offre un t-shirt, une casquette CIO, et encore pas sûr, jusqu'à des contrats précaires, etc., etc. Vous pouvez nous en dire deux mots ?
Alors en fait, vous avez deux types de situations. Vous avez ceux qui sont les dirigeants, c'est-à-dire ceux qui vont être au COJO, etc., et qui ont des émoluments absolument mirifiques. Ceux-là vont gagner beaucoup d'argent. Ça, c'est une certitude, et c'est une certitude aussi pour la société privée qui s'appelle Kenéo, qui a fait l'étude d'impact et dont le président, maintenant, a déménagé pour faire partie du comité d'organisation des Jeux Olympiques. Tout cela vont gagner beaucoup d'argent. Et puis, Il va y avoir aussi pour le bon peuple, pour le bas peuple, je ne sais pas comment il faut dire ça.
Le bon peuple.
Le bas peuple, il va y avoir une loi olympique, c'est-à-dire une loi spécifique qui va organiser ce qu'on appelle dans le jargon l'extraterritorialité. C'est-à-dire qu'en matière d'urbanisme, en matière de fiscalité, mais aussi en matière sociale, eh bien la loi française ne va pas s'appliquer. Et spécialement sur la question de ce qu'on appelle, c'est un peu technique, mais je pense que tout le monde comprendra assez rapidement, c'est la question de la qualification du contrat de travail. C'est-à-dire que c'est une machine à cash, le CIO, mais ils vont avoir besoin de 32 000 volontaires qui vont être pas payés du tout.
Ça c'est les bénévoles. Ça, c'est des bénévoles, ça.
Des bénévoles à qui ils vont s'adresser exactement aux jeunes gens qui habitent Saint-Denis, qui connaissent un taux de chômage extraordinaire, hein, c'est un département où il y a beaucoup de chômage. Ils vont leur dire, braves gens, vous avez les moyens, grâce à notre grandeur d'esprit, de vous insérer dans le monde du travail, donc vous allez travailler pour nous bénévolement. Et là, vous aurez une expérience qui va pouvoir être valorisée par la suite. Et si par hasard, il y avait deux, trois gronchons qui disaient, mais pas tout, j'ai fait un travail qui normalement devrait être payé, eh bien, la loi olympique va leur interdire de faire le moindre recours. C'est-à-dire, je répète pour que ce soit bien compris, qu'il y aura une loi spécifique pour que le CIO ne voit pas la loi française s'appliquer à lui.
C'est une espèce d'extraterritorialité.
Exactement.
Et quand on devient salarié ou bénévole du CIO, on est citoyen du CIO, c'est un peu ça?
Alors, ça, on va voir ce qu'il y a dans la loi. On va voir ce que va dire la loi olympique. Comment est-ce qu'elle va organiser le fait qu'il va y avoir des contrats qui vont échapper au droit français? Alors, ce sera des contrats de droit suisse, ça, je sais pas.
Est-ce qu'il file la nationalité suisse en échange du bénévolat?
Jamais.
Parce qu'à la limite, je veux bien distribuer des gobelets.
Non, mais il y a un discours qui est beaucoup plus simple. J'ai été du CIO, c'est de dire, on est tous des citoyens du monde.
Non. Bah, suisse. Le monsieur, il dit, tu peux être suisse, mon frère, si tu bosses pour le bénévolat, pour le CIO. Mais il n'y aura pas que des bénévoles, il y aura quand même des gens qui seront un peu payés. Mais comme vous le dites dans votre lettre ouverte au syndicat, ça va être pareil.
Oui, et alors là, les syndicats quand même, alors il faut les nommer, hein, parce qu'il n'y a aucune raison.
Ouais, allons-y, on est sur Canada.
La CGT, FO, la CFTC, la CFDT, évidemment, CGC, PME, bon, tous ces syndicats, ont quand même signé une lettre dans laquelle ils disent au CIO qu'il n'y aura pas de problème social le temps des Jeux Olympiques.
Non.
Ça, je trouve ça assez extraordinaire de la part de syndicats qui se veulent combatifs, de savoir 7 ans avant qu'il n'y aura pas de problèmes sociaux.
Ils le disent, ils ont annoncé carrément, ils ont envoyé ça au CIO.
Ah bah ils ont donné des garanties, que tout va très bien.
Je pense que c'est le syndrome de 98, là, qu'on a été champion du monde de foot. C'est vrai qu'il y a une espèce de paix sociale, de rassemblement. Bon, ça a duré 2 mois, 3 mois, Black Bomber, enfin bref. Et je crois qu'ils sont encore dans cette utopie-là, parce que ce qui s'est passé en 98, je me contais que c'est pas forcément...
En 98, on gagne la Coupe du Monde, et en 2002, on envoie Jean-Marie Jean. Bah, c'est encore le vieux, Le Pen au deuxième tour.
Oui, mais ça dure quelques mois.
Donc, alors, ceci dit, les syndicats, ils disent ils ont été convaincus par le fait que le CIO fera un effort d'insertion pour les jeunes gens en difficulté. Bon, c'est-à-dire qu'ils se sont convaincus de promesses. Et contre ça, ils ont dit qu'ils allaient assurer la paix sociale. Alors, tout n'est pas noir, parce que ce sont simplement les confédérations, hein, c'est-à-dire au niveau fédéral, que la signature a eu lieu. C'est les secrétaires généraux qui ont signé. Moi, je serais très curieux de savoir ce qu'en pensent les syndicats de base et les syndicalistes de base de cette affaire-là. Et je crois que là aussi, les choses ne sont pas dites.
Alors, si Jean-Loup, vous avez à moi, Jean-Loup, moi j'aurais envie, j'ai peur que vous ayez envie d'aller boire un coup, mais moi je ne suis pas parisien, et j'ai piqué ça dans Ouest France, journal local, le journal breton. D'accord ? Je vais vous poser une question. Est-ce que vous pourriez me citer au moins 3 sites qui remontent aux Jeux Olympiques de 1904 à Paris ?
1924 ?
Ouais.
Alors en fait, c'était pas...
1924, excusez-moi.
Ça n'a pas eu lieu à Paris, à proprement parler. Je crois que c'était dans une ville de banlieue.
Alors, on me parle de Colombes, moi. Le Colombes, stade de Colombes.
Je cherche Colombes, je cherchais le mot. C'est un très joli mot. C'est ça, c'est à Colombes que les choses ont lieu, ouais.
Ouais, et ça c'est rigolo parce que pour l'anecdote, il y a eu une finale de Jeux Olympiques, donc pour la finale de rugby entre la France et les États-Unis, ça s'est terminé en pugilat.
Et donc en fait, dans l'Ouest France, je vois le pug de Bretagne, une espèce de petit quiz pour nous rappeler.
Non, c'est moi qui le pose en quiz pour faire de la misère à notre invité. Hein. Non seulement il n'a pas pu boire un coup, mais en plus de ça, je lui pose des questions à la con. Et il y a un truc quand même. Il y a un site olympique parisien qui est en liaison avec la DGSE.
Ah ben oui, non mais forcément ça va être le village média ou le village olympique.
Hein. Non, c'est la piscine des Tourelles, des Tourelles située près de la Porte des Lilas, on me dit, dans le 20e, qui a vu nager bien des vedettes et avec notamment Johnny Westmuller qui a gagné plein de médailles à la piscine des Tourelles. Mais comme tout équipement issu des Jeux Olympiques, bah il prend l'eau et d'ailleurs ils annoncent dans West France, qui n'est absolument pas parisien, que ça va être fermé jusqu'au printemps 2018. Il en va de là, de tous les équipements de Jeux Olympiques. On n'aura pas le temps de parler des locaux de Sochi qui ressemble à une ville fantôme, pas plus que des bacs à canards au Brésil qui ont servi de pistoche, etc., etc. C'est bien dommage.
Athènes aussi où tout tombe en ruine, etc. Oui, il y a à chaque fois des grands éléphants blancs qui tombent en ruine après chaque Jeux Olympiques. Oui.
Et Sochi, ça a été particulier, hein, des autoroutes apparemment qui ne servent plus à rien. On parle même, quand on parle de Sochi, de métaphore pour la corruption.
Il y a des chances de ça, c'est-à-dire en même temps la corruption et l'autoritarisme, parce que ça correspondait à une volonté du pouvoir, singulièrement de Vladimir Poutine, notre ami Vladimir Poutine, de se mettre en avant. Et donc il a été question de faire quelque chose d'absolument grandiose pour montrer comment le régime poutinien était capable de faire des choses merveilleuses.
Donc, quelque part, pour conclure, si Haïti envoie un dossier au CIO en mettant un petit billet dans le dossier, les prochains Jeux Olympiques de 2030 et les poussières pourraient être organisés dans un pays dont on sait qu'ils pourront jamais payer, de toute manière. Dans l'absolu.
Le billet devra être plus que petit.
Et à mon avis, il faudrait que les présidents du CIO boivent autre chose que du champagne en termes de stupéfiants.
Eh ben, par contre, vous mettez en Rome.
Il n'y avait pas que Sochi. Il y aura bientôt les Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques d'hiver en Chine, à Pékin, où on sait bien que Pékin est réputé pour ses montagnes et pour ses sports d'hiver.
Oui, bien sûr. Sinon, si dans le genre amusant aussi, vous avez une dernière petite anecdote, la petite virée de la délégation française pour aller à Lima et pour recevoir l'information que tout le monde connaissait, c'est-à-dire l'attribution à Paris, a coûté pour l'instant aux contribuables, dans tous les cas, ce sont des chiffres qui n'ont pas été démentis, 1,5 million d'euros. La petite virée, en jet privé, en restaurant, etc. Et ça, pendant 7 ans, on va avoir droit à ça très 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 souvent, et ce n'est que la goutte d'eau, c'est vraiment que l'écume, parce que fondamentalement on va être sur des déplacements en termes vraiment d'infrastructures de transport qui vont véritablement exploser la facture.
Et pour conclure, dernier mot, donc faut rappeler, même vu de Rennes, on va dire, oh, c'est un problème de région parisienne, du Grand Paris, etc., etc. Même à Rennes, on va payer Bein Sport 10 euros en plus pour voir les Jeux Olympiques, parce que je pense qu'en 2024, pour voir les Jeux Olympiques, il faudra raquer, et on paiera quand même indirectement.
Indirectement.
Mais c'est bien de dire.
On appelle ça les impôts sur le revenu, mon bon Jean.
Oui, tout simplement. L'État est engagé. Hein, donc c'est l'État qui va, de toute façon, mettre la main à la pâte, qui va mettre la main au portefeuille. L'État, c'est pas l'État, c'est nous.
D'accord.
Donc c'est les contribuables, et tous les contribuables, que ce soit ceux de Rennes, de Rogent-Rotrou, de Marseille, de Paris, de ce que vous voulez. Alors c'est sûr que les Parisiens et les banlieusards vont déguster, parce qu'ils vont avoir des impôts locaux qui vont forcément...
Plus les travaux, plus la police, plus l'armée.
Oui, bien sûr. Mais l'ensemble des habitants en France va être obligé de combler le trou. Hein. Mmh. De toute façon, cet argent, il va le trouver.
Mmh. On va vous laisser tranquille, mais je crois que cet argument-là est à mettre en avant, surtout que si vous déplacez en province ou si vous diffusez sur la province.
Mmh. Mais je crois que le président Mao disait, en multipliant les petits foyers, on peut faire un grand feu.
Sans doute.
Ça met mal à l'aise quand on dit que c'est Mao qui dit ça, quand même. On vous remercie beaucoup. On vous souhaite une bonne fin d'apéro en espérant que vos amis vous aient laissé de quoi boire.
J'espère aussi.
Et à faire à suivre.
À bientôt.
À faire à suivre.
Merci, au revoir.
Au revoir. Oui.
I found something in my TV screen. I think I found out that I have nothing, that I have nothing in this place for me. I watched it all in my head, perfect sense. Don't take me from my bed. Leave everything that is worth a single cent and just take me instead. That TV show I saw as I fell asleep had me on both my knees, praying to whatever is in heaven, please send me a felon and don't let the police know. I think I can tell
them. Tell them they were made for me. I'm thinking they'll know it already. I'm thinking they'll know just about everything. I bet they planned it all out like the shows. Went everywhere I go. Walked in the store right behind me, stood in line right beside me and followed me to my home. I'm sure they figured it out early on that I would never run, that they could shoot but that's no fun, 'cause then they're killing the stolen son. Oh, anything.
your green with and red with energy change from day to day. This situation's dangerous, I gotta get away.
Y'en a marre. Ça ne peut plus durer. À force de dépasser les limites, je vais sortir de mes gonds. C'est la goutte d'eau qui met le feu aux poudres. Moi je dis mes couilles, merde, saloperie de nom de dieu de bordel à cul, chérie de putain d'enculé de mes deux. Chronique coup de gueule.
Et oui, quand on vous dit émission bourrée, c'est émission bourrée. Après le coup de gueule de monsieur Frédéric Vial, rapport aux Jeux Olympiques iniques qu'on nous impose, voilà maintenant monsieur Jérémy Grandière. Bonsoir.
Bonsoir.
Et nous sommes ravis de vous avoir, malgré les numéros de téléphone pourris que m'avait donné Tom. Mais bon, j'ai réussi à remonter la filière un peu à la façon d'un saumon. Saumon métaphore pour parler de la tragédie qui s'est déroulée sur la Seiche. Alors, c'est un drôle de nom, la Seiche pour une rivière, on reviendra là-dessus. Mais vous êtes donc le président de la Fédération de pêche, de la, comment peut-on dire, du département, c'est ça?
Voilà, en fait, Fédération de pêche, ça limite beaucoup les choses, mais en fait, nous sommes une fédération de pêche et de protection des milieux aquatiques.
D'accord.
Et donc, en fait, il y a, pour chaque département, il y a une fédération départementale. Donc voilà, moi j'ai la chance d'être le président de la Fédération Ille-et-Vilaine.
Et donc du coup, alors que la Seiche justement fait partie de la zone dont vous vous occupez, eh bien la Seiche est une rivière sur laquelle vous aviez fait beaucoup de travail. Voilà typique que l'usine Lactalis a déversé tout un tas de saloperies dans la rivière, plus qu'elle n'en dépose de raison, parce qu'apparemment ça fait longtemps qu'elle en jette. Hein.
Bah écoutez, c'est vrai ce qu'il faut savoir, c'est que les rejets sont autorisés à partir du moment où c'est parfaitement dilué, où il n'y a pas trop de matière organique, c'est pas forcément gênant pour le milieu. Malheureusement, aujourd'hui, on a des rivières qui se sont habituées à ces rejets. Ils sont importants par moment quand on est sur un moment de fort étiage, comme là avec ce qu'on vient de passer, avec ce moment de sécheresse, où cet apport peut être intéressant. Après, vous imaginez bien, quand je dis que ça peut être intéressant, c'est quand une eau arrive parfaitement saine et bien oxygénée, quand elle arrive à un fort débit, remplie de matière organique et dénuée de tout oxygène, ça devient une catastrophe. Oui.
Ah, une petite question en fait pour remettre en contexte. Qu'est-ce qui s'est passé c'était au mois d'août, un truc comme
ça. C'est ça, ouais.
C'est ça. Ah, donc en fait.
Et c'est vrai que la nouvelle, tout le monde, était en vacances entre.
Ah, moi j'en ai entendu parler, même sur France Inter, ils en ont parlé, France Info et tout. C'est quand même une nouvelle qui a été reliée.
Ah, qu'est-ce qui s'est passé au juste?
Ça a été relié parce que j'ai voulu absolument médiatiser l'affaire parce que je me sentais seul. L'ensemble de la fédération était complètement frustré par tous ces événements. Un accident industriel a eu lieu le 18 août à l'usine Lactalis de Rottier. La première mortalité a lieu le lundi, entre la nuit du lundi au mardi, donc du 21 au 22 août, parce que vous imaginez, ils ont une usine d'épuration, une station d'épuration avec un méthaniseur, différentes choses qui font que le temps que tout ça se dégrade fortement, le temps que toute cette station dégueule. Eh bien, il a fallu quelques jours. Donc la première mortalité entre le 21 et le 22 août. Et donc là, nous on déplore cette mortalité dès le mardi. La fédération de pêche, après un signalement d'un pêcheur, alerte la direction départementale des territoires et de la mer, la police de l'eau donc, qui fait appel à un premier agent de l'AFB, l'Agence française de la biodiversité, qui vient sur place et qui déplore malheureusement cette mortalité qui remonte jusqu'à la source du rejet, donc à la source de la pollution. Donc voilà, l'usine Lactalis, c'est là que les choses commencent. Ouais.
Voilà. Et donc du coup, vous réagissez, mais alors là, le 18 août, accident industriel, de quel type? Qu'est-ce qu'on appelle alors un accident industriel?
Eh bien ça, c'est ce qu'on va savoir bientôt, parce que vous imaginez bien qu'il y a toute une procédure juridique. Il y a eu un PV dressé par l'Agence française de la biodiversité. Apparemment, voilà, c'est un incident, je sais pas comment on va l'appeler. Moi, aujourd'hui, on déplore une catastrophe. Le 18, c'était un accident. Il y a eu toute une forte, un fort rejet de lactosérum qui ont fait, donc d'après les premières informations qu'on a, après je reste extrêmement vigilant parce que vous imaginez bien qu'il y a toute une enquête. On en saura plus bientôt. Demain, je serai auditionné à nouveau par la gendarmerie pour vraiment essayer de tout mettre au clair. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ce produit n'a pas pu être assez dilué, assez travaillé, assez épuré pour ressortir correctement dans notre rivière. Donc il s'est passé un rejet chargé en matière organique qui, donc en fait vous imaginez une eau qui arrive où il n'y a plus d'oxygène, qui se met directement dans notre rivière. Donc tous nos poissons sont morts d'un coup d'un seul asphyxiés. Comme si nous on nous coupait l'air d'un coup d'un seul. Voilà ce qui s'est passé.
Alors, comment dirais-je? Moi, ce que j'ai un petit peu peur, on va prendre notre temps, je vous sens un petit peu essoufflé, comment dirais-je? On a le temps.
On a le temps.
On vous tient jusqu'à 22h. Est-ce que les enfants sont couchés?
Bien sûr, les enfants sont couchés et j'ai la chance d'avoir en arrière-plan le PSG qui gagne 2-0, donc tout va bien.
Yes! Notez avec le pognon qu'ils ont mis dedans, c'est quand même dommage qu'ils gagnent pas.
Est-ce que Neymar a marqué?
Non, mais Neymar est pas sur le deuxième but, parce que c'est un but de Cavani, le premier but de la VS. On va parler foot, mais c'est grâce à Neymar le premier but. Le deuxième but, je suis avec vous, donc c'est vrai que je suis parti dans notre terrible pollution, donc c'est vrai que je regarde sans regarder.
Alors moi, ce qui me fait un peu peur, pour revenir à ce qui nous préoccupe, c'est, vous savez, il va y avoir du délai, enquête, etc. Est-ce qu'au moins il y a eu des prélèvements qui ont été faits, des prélèvements, en tout cas, qui seront validés par la justice, qui ont été faits au cours du mois d'août, justement, durant les pires pics de pollution?
Ça, c'est tout ce que j'espère. Aujourd'hui, quand on fait appel aux... Enfin, les services de l'État se sont déplacés, l'Agence française de la biodiversité, pardon, s'est déplacée, fait des constatations. Après, je sais que j'ai pu voir pendant tous ces nombreux jours où on a subi, où cette pollution s'est acharnée sur notre rivière, j'ai pu voir différents huissiers de justice qui travaillaient pour les Lactalis, qui eux aussi faisaient leurs prélèvements. Après, voilà, les seules infos que j'ai, c'est que je sais que j'ai vu beaucoup de prélèvements de faits, beaucoup de constatations, beaucoup de mesures d'oxygène de fait par la DDTM. Après, je peux vous promettre cette décision que j'ai prise pour alerter la presse, elle a été mûrement réfléchie. Je savais tout ce que ça pouvait engendrer, mais après cette médiatisation, on a pu voir vraiment un déferlement de beaucoup de choses.
Alors, il y a au moins une chose qui fera preuve, c'est au moins ces bodies, au moins, j'en étais dans l'article que j'ai shippé dernièrement, à 4 tonnes de poissons morts, c'est pas rien.
Alors, écoutez, 4 tonnes, je vais pas faire mon alarmiste ni rien. 4 tonnes, je peux vous promettre que c'est vraiment minimiser les choses. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'on revient sur un accident donc au 18 août. Mmh. On a ce premier signalement du 22 août par la Fédération de pêche. On a le 25 août, j'alerte la presse, j'alerte les services de l'État, la DDCSPP, j'alerte qu'on vit une situation dramatique, qu'on a une mortalité continue qui s'acharne, parce qu'il faut quand même imaginer que le 22 août, il y avait quelques centaines de poissons. Le 25 août, quand j'alerte, on est rendu à quelques kilomètres. Et le week-end passe, et le 26, 27, 28, 29 août, on est toujours sur une situation qui s'aggrave, avec le 29, 30 août, une pollution qui a touché presque 8 kilomètres de rivière. Donc moi, ce qui m'a vraiment peiné, c'est ça, c'est cet acharnement. On aurait pu, certainement, ils auraient dû
arrêter avant.
Couper rapidement. Avant. Après, voilà, les choses en sont vraiment là. On a subi. On a vraiment subi.
Alors, on va s'écouter un petit dig, si vous voulez bien.
Le temps
pour regarder le match et on vous rappelle tout de suite avec poursuivre cette conversation.
À tout de suite.
Merci, à tout de suite.
Des émissions avec des amis où on se moque des handicapés. Cette fois-ci, je vais réagir. Sûrement d'ailleurs comme a réagi Lactalis. Alors je rappelle pour ceux qui prendront l'émission en retard, ça me fait un peu suer d'ailleurs parce qu'il est quand même 21h30. Mon bon Jean-Louis, ils auraient pu allumer leur poste avant. Mais nous sommes en compagnie.
Oui, mais il y a match. Ce soir.
Nous sommes en compagnie de Jérémy Grandière qui vient nous parler de la pollution de la Seiche, pollution occasionnée par un accident industriel SIC de l'usine Lactalis située à Retiers. Alors, j'imagine donc que l'usine Lactalis, située à Retiers, a agi comme toute bonne entreprise responsable et écologiquement responsable. Elle a agi avec célérité.
Bah écoutez, ce qui s'est passé, ce que mon ressenti de toute cette pollution, les choses se sont enclenchées trop tardivement. C'est ce que je reproche aujourd'hui. C'est pour ça aussi que je suis triste et mécontent, c'est que on a eu beaucoup trop de temps. Vous vous rappelez, hein, on parle bien d'un accident du 18, une mortalité du 22 août. Le 25 août, j'alerte la presse. J'ai le premier coup de téléphone de l'usine Lactalis le 28, qui, je vous rappelle quand même, me fait un appel à la solidarité des pêcheurs pour venir ramasser les poissons morts.
C'est un peu comme les bénévoles du CIO qu'on a eu tout à l'heure, quoi. On ramasse la merde.
C'est ça, c'est ça. Et donc là, écoutez, je prends ça très mal, et je leur explique quand même que moi, mes poissons sont vivants et les leurs sont morts. Donc je n'ai rien à voir là-dedans. Et donc après, le mardi, donc on est quand même à 8 jours après la première mortalité, donc vous imaginez un petit peu l'état de dégradation des poissons. Ouais. Un poisson mort ne va pas attendre qu'on vienne le chercher. Il se dégrade, il pourrit, il finit au fond de l'eau, on peut plus le toucher, il explose. Donc voilà un petit peu la situation. Donc le mardi, donc dès le lundi soir, l'usine Lactalis fait appel à une société spécialisée, la société Triadis, qui est extrêmement compétente et qui est habituée à vivre ce genre de catastrophe. Et donc là, les choses démarrent correctement avec une réelle prise de conscience de l'importance de cette catastrophe. Et donc là, on peut voir rapidement 10, 20, 30 hommes arriver, 2, 3, 4 bateaux arriver avec différents tracteurs et tout ça pour pouvoir vraiment être efficace rapidement. Et donc là, le mardi midi, première constatation de cette usine spécialisée qui annonce entre 15 et 20 tonnes.
Pourquoi il marque 4 tonnes dans le journal d'Ouest France?
Vous savez juste de commencer?
Non, vous rigolez, c'est un journal qui date du 1er septembre.
Écoutez, c'est très simple. Rappelez-vous, on est sur une mortalité qui date de 8 jours. Entre le moment où l'entreprise intervient et le moment où elle termine, on est 8, 9, 10, 11, 12 jours. Donc ce qui se passe, c'est que le poisson n'attend pas pour pourrir. Le poisson est mort, il pourrit simplement, parce qu'en fait, il peut plus ramasser. Donc ils ont ramassé 4 tonnes, certes, mais sauf n'oublions pas que cette usine spécialisée annonce bien le midi en réunion de crise entre 15 et 20 tonnes de poissons à ramasser. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est eux qui le disent devant témoins. Et après, sauf que les choses, on a le mardi après-midi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Donc imaginez presque 4 jours de ramassage de poissons par 32 hommes équipés de bateaux et de véritables moyens. Sauf que moi je me rappelle très bien le jeudi soir et le vendredi matin avoir fait le point avec cette entreprise et je leur dis il faut arrêter parce que plein de poissons, on ne peut même plus les toucher, il y a plein d'asticots dedans. Quand l'épuisette passe, ça passe à travers les mailles. Certains poissons explosent, c'est une puanteur. Moi je vous jure sur la tête de mon fils, j'ai vomi.
Ne jurez pas Marie-Thérèse.
Si, parce que moi j'ai vraiment juré parce qu'en fait on a vécu quelque chose de dramatique et j'avais vraiment l'impression. C'était apocalyptique et c'est pas pour faire vraiment du cinéma. On avait vraiment une situation, imaginez,
alors,
10 mètres de poissons morts.
Alors comment on peut expliquer que dès août on était à déjà plus de 20 tonnes de poissons morts et que le 1er septembre la presse locale parle de 4 morts? Incompétence ou complicité?
4 tonnes.
Non, je dirais pas. En fait, c'est vraiment ce qui a été ramassé, parce que ce qui s'est passé, c'est que dès les premiers ramassages, moi j'ai voulu vraiment m'assurer que tous ces poissons étaient pesés. J'ai pu me rendre compte rapidement que c'était pas pesé, que ça partait comme ça, donc alerter les services de l'État. Après, vous imaginez bien, on est sur un secteur, sur ces 8 km de rivière, où on a une frayère à brochet. Vous imaginez, ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. On est sur une espèce menacée, le brochet, qui nécessite qui a une production difficile. Donc il faut avoir des niveaux d'eau soutenus, il faut avoir tout un conditionnement de cette rivière pour pouvoir être propice à la reproduction du brochet. Donc un brochet n'a pas la même valeur qu'une brème ou qu'un gardon. Et on est aussi sur des espèces comme l'anguille, qui est menacée d'extinction, qui a été fortement impactée parce qu'on a vu des centaines d'anguilles mortes. Donc c'était quand même dramatique. Donc c'est qu'après, moi j'ai voulu vraiment que tout soit pesé, mais je veux pas qu'on retienne que c'est 4 tonnes. Ces 4 tonnes sont les poissons ramassés. Ce ne sont pas les poissons morts. On rappelle bien qu'il y a plusieurs tonnes au fond de l'eau en pourrissement.
Alors, j'en reviens à Lactalis et puis je laisse la parole à Jean-Loup qui va m'étouffer.
Vu l'habitude, allez-y.
Alors, comment Lactalis, c'est eux qui ont payé cette société-là?
Bien évidemment.
Trialis. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe alors maintenant? Qu'est-ce où on en est là?
Bah écoutez, on est sur une action juridique. Nous avons porté plainte. La fédération de pêche d'Yvelines, j'ai porté plainte très rapidement. Après, quand on a supporté ce genre de choses, la moindre des choses, c'est de porter plainte. Mmh. Par respect pour les pêcheurs, je veux que les choses aillent jusqu'au bout. Après, j'attends le retour du proc. Hein, quand le procureur nous enverra donc le procès-verbal, on se rendra compte un petit peu de ce qui a pu se passer réellement. Après, je tiens quand même à souligner que l'entreprise Actalis a mis tout en œuvre, trop tardivement certes, mais a mis tout en œuvre pour avoir un ramassage suffisant par rapport à la gravité de la situation. Après, nous nous sommes rencontrés quelques jours après, il y a une dizaine de jours là, à la demande du secrétaire général de la préfecture, où on a pu échanger. C'est ce qu'ils appellent un retour d'expérience, parce que il faut vraiment que cette catastrophe serve aussi à l'avenir. Il n'y a pas que l'Actalis qui fonctionne comme ça. Il y a plusieurs installations et il faut vraiment qu'on puisse être plus réactif à l'avenir. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, moi, ce que je veux aujourd'hui, de la Fédération de pêche, je souhaite que on veut de véritables garanties. On peut pas se permettre d'investir autant d'argent, de mettre autant de bénévoles en effort et de passer autant de temps par conviction et par émotion comme on fait chaque jour, et pour que en quelques minutes, en quelques heures, on puisse tout tuer d'un coup d'un seul. Imaginez bien, hein, on parle quand même de frayeur à brochet. Il y a eu des milliers de petits brochets de morts alors que c'est une espèce menacée. Un poisson de 20 kilos pour une espèce comme la carpe va mettre 15 ans, 20 ans avant d'atteindre ce poids. Un silure, plusieurs silures de 50 kilos vont mettre 20 ou 30 ans. Donc en fait, ce qui est mort est mort. On pourra nous faire croire ce qu'on veut, on pourra essayer de réparer. La nature, vous savez, elle a horreur du vide. Donc naturellement, elle va reprendre possession des lieux. Mais je suis désolé, hein, ce qui est mort est mort. On répond pas à une pollution par un déversement.
Il y a forcément une diversité ou autant de diversité. Par contre, les analyses qui ont été faites, est-ce que ça prouve que ça vient bien de chez Lactalis ?
Bien évidemment, mais Lactalis admet, c'est ce qui me rassure aussi, c'est que le groupe Lactalis admet complètement ses torts. Après, voilà, ils ont eu un accident, ce que je comprends. Ils sont en train aujourd'hui de tout mettre en œuvre pour réparer les choses. Après, voilà, c'est ces conditions de réparation que pour l'instant on n'a pas.
Vous n'êtes pas satisfait. Mais il y a quand même une relative bonne relation dans le sens.
Ouais, coopération.
Le pollueur est prêt à payer.
Bah écoutez, ils ont admis leur tort. Aujourd'hui, ils veulent absolument réparer leur erreur. Sauf qu'aujourd'hui, la réparation, c'est une chose. Mais ce qu'on veut, comme je disais tout à l'heure, c'est de véritables garanties. On ne veut pas que ça puisse se reproduire.
Voilà.
C'est pas possible. Pour nous, c'est pas possible. On va pas tolérer. On va pas. Écoutez, la fédération de pêche d'Ille-et-Vilaine aujourd'hui, c'est 21 500 pêcheurs. C'est pour ça qu'on a de l'importance, parce qu'on est 21 500 pêcheurs. C'est pour ça que j'appelle tous les pêcheurs à rester toujours aussi mobilisés. On est 21 500. Nous avons 11 salariés. Nous sommes réellement bien perçus. Mais par contre, aujourd'hui, ce qu'il faut être sûr, c'est qu'on doit arrêter de travailler. Si jamais on nous considère comme de véritables acteurs de protection du milieu aquatique, et ben là, faut nous le montrer. Aujourd'hui, on peut plus tolérer ça. Comment voulez-vous qu'on continue à convaincre les jeunes? On mise beaucoup sur le développement du loisir pêche. Est-ce que vous croyez que c'est normal que 8 km de rivière, d'un coup d'un seul, peuvent mourir?
Ouais.
Et moi, le pire quand même, c'est que quand j'alerte, hein, 5 jours après, les services de l'État me disent quand même que malheureusement, c'est pas un abattoir et qu'il va falloir attendre, parce qu'on n'arrête pas une literie. Donc moi, j'y vais.
D'accord. Voilà. On fait une petite pause musicale, histoire que vous... Alors, on est à combien, là, pour PSG?
On est à 2-0, toujours.
Toujours.
Bon, je crois qu'ils vont se complaire dans ce 2-0, et puis ils vont prendre 3-1 au retour.
Non, c'est la mi-temps dans quelques minutes. On vous retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.
Merci.
Feeling I've had before.
Allez, voilà, pour les tout derniers arrivés après cet excellent morceau de la programmation à Jean-Loup, dont on n'attendait pas tant. Ça vient d'où, cette espèce de morceau
Vampire.
Ouais, hypnotique. C'est très, très bien.
Psychédélique. Oh, bah, ça, c'est mon secret, je vous dirai pas.
Ah, vous avez un joli secret. Allez, pour les tout derniers arrivés, je rappelle qu'on est en compagnie de Jérémy Grandière, que nous parlons de la pollution de la Seiche. Alors, il y a au moins un truc sur lequel le journal n'a pas menti. La Seiche, c'est vert aujourd'hui.
La Seiche est vert, oui, bien évidemment. Après, vous imaginez, tous ces poissons en tourisme ont besoin d'oxygène pour se désagréger. Mmh. Donc c'est oui, bien sûr, c'est vert. Après, c'est pas la seule rivière qui est verte. On vit une forte période d'étiage. On a des niveaux d'eau très très bas. On a différents barrages qui font qu'on a un effet plan d'eau sur nos rivières. Donc on a une prolifération de différentes lentilles et puis une évaporation accélérée. Donc c'est vrai que c'est compliqué. On vit un moment compliqué, mais ça n'excuse pas. Et cette mortalité n'est arrivée que, enfin, à cause de ce rejet chargé en matière organique.
Donc le but du jeu au final, devant la justice, parce qu'apparemment c'est une affaire qui va aller au tribunal, apparemment.
Bien évidemment.
Le but du jeu, c'est avant même les réparations, parce que si on remet des tas de poissons en vrac, c'est pas ça dont vous voulez. Est-ce que c'est avant tout la promesse ou l'engagement formel, etc., une garantie comme quoi ça se reproduira pas?
C'est ça. Donc en fait, aujourd'hui, il faut savoir que ce genre d'installation, il contrôle les entrants de leur station d'épuration, de leur sèche, mmh, et les sortants. C'est vrai que c'est compliqué. Il n'y a pas de visu là-dessus. L'État accepte les mêmes taux aussi bien l'hiver que l'été, donc c'est compliqué. Après, moi, ce que je veux vraiment, c'est que sur ces 8 km de rivière, qu'ils soient importants dans le département, parce qu'on avait quand même la meilleure frayère à brochet d'Ille-et-Vilaine. Donc ça, je veux pas qu'on l'oublie. Et je crois vraiment qu'il faut qu'on travaille là-dessus. Je crois que la meilleure réponse contre une pollution aussi dramatique, pour nous, enfin vous savez, ça fait un an et demi que je suis arrivé à la tête de la fédération du Divilaine, et même quand je regarde un petit peu l'historique, c'est la pollution du siècle, hein, faut pas,
enfin, ah ouais, pas
non plus, hein, 8 km, 15 ou 20 tonnes, enfin c'est quelque chose de dramatique. Le matin, j'arrivais, avec différents bénévoles, les écrevisses sortaient de la rivière pour fuir le milieu. Imaginez quand même un petit peu la situation. On avait des écrevisses qui sortaient de la rivière. Est-ce que vous avez déjà vu des écrevisses dans un champ? Moi, je n'en avais jamais vu. Des écrevisses qui partaient dans l'herbe et des anguilles qui remontaient par les champs pour pouvoir fuir ce milieu qui ne leur permettait plus de vivre. Donc, on a vécu quelque chose de dramatique. Et moi, ce qui m'a le plus peiné, c'est que quand j'alerte la presse le 25 août, je suis devant des poissons en train d'agoniser, en pleine détresse respiratoire, et quand je demande qu'on fasse quelque chose, on me dit « ce n'est pas possible ». Et donc je demande si je dois me résigner et regarder mes poissons mourir, on me dit « oui ». Donc c'est pour ça que les choses se sont un petit peu aggravées, ça a pris une proportion différente.
Alors pourquoi c'est pas possible? Parce que c'est, comme vous disiez tout à l'heure, c'est pas un abattoir, c'est une laiterie, c'est ça?
Donc voilà, un abattoir apparemment...
On arrête de tuer des bêtes et on n'a plus d'effluents.
Ça par contre, c'est ce qu'on a voulu me dire. Aujourd'hui, je suis désolé, c'est pas la seule laiterie du Divilaine, je n'accuse personne. Certainement qu'en fait, on était vraiment sur une situation nouvelle, sur quelque chose de dramatique, et le fait d'avoir alerté la presse comme j'ai pu le faire a pu permettre qu'on ait tous la même information. Aujourd'hui, je tiens à féliciter vraiment les services de l'État qui ont été extrêmement réactifs. J'ai été très entouré, les réponses ont été très rapides, donc les services de l'État ont très très bien agi. On pourra dire ce qu'on voudra, mais les services de l'État ont très très bien agi. Après, ce que je déplore, c'est ça, c'est que je pense qu'on n'avait pas dès le début vu l'importance de la situation, l'importance de la catastrophe, et peut-être qu'on aurait pu faire différemment, peut-être qu'on aurait pu bypasser plus rapidement ce rejet, peut-être qu'on aurait pu rediriger le lait ailleurs. Après, c'est pas moi, il y a...
Bah ouais, parce qu'il y avait moyen de jeter, alors vous avez, il y a un nom technique pour ça, je sais plus comment ça s'appelle, vous le dites, c'est du lactosérum. Voilà, lactosérum, c'est ça. Il y avait quand même moyen, à ce moment-là, ils mettaient ça, ils dérivaient ça sur des camions et puis ils stockaient ça, enfin je veux dire, c'est incroyable.
Après, c'est vrai que moi j'ai pas ces connaissances techniques, et puis après voilà, je vous avouerai que on est tellement plus dans une situation difficile où on regardait les choses. Après vraiment, je pense que Lactalis a pris conscience des choses trop tard, certes, mais quand elle a pris vraiment conscience des choses, elle a parfaitement agi en faisant appel à la bonne entreprise. Après, je reste convaincu que sans la presse, on n'aurait pas eu cette même situation. Voilà.
Et alors, Lactalis a reconnu l'accident. C'est quoi l'accident en fait? Il y a même une vanne qu'ils ont ouverte.
Sur une ligne d'essai. Après, j'ai pas tous les termes techniques, hein, mais oui, ils cherchaient une certaine protéine dans le lait, et donc ils étaient sur une ligne d'essai. Et malheureusement, comme souvent dans les essais, et puis donc ça a pas fonctionné correctement. Toujours un essai le vendredi. Voilà, c'est toujours un. Plusieurs circonstances qui font que ça devient dramatique. Après, il y a une enquête en cours aujourd'hui, hein, je vais pas me lancer là-dessus, on saura plus bientôt.
Ouais. Jean-Louis, ce qui est surprenant, c'est que ça fait un mois, il y a toujours une enquête en cours. Bon, on trouve des traces ADN au bout de deux heures, dans certains cas, ça c'est bizarre que ça traîne un petit peu comme ça, surtout que Lactalis, qui reconnaît ses torts, doit savoir parfaitement ce qui s'est passé exactement.
Certainement, après...
Bah, ils ont traîné. En fait, le gros truc, si j'ai bien compris, ils ont traîné.
Bah écoutez, ils ont traîné parce que je pense que personne n'avait pris vraiment conscience de la situation. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'usine rejette, mais le rejet arrive dans la rivière que 6-7 km
plus bas.
Donc en fait, ils ont aucun visuel, personne ne peut se rendre compte. C'est ça aussi que je veux aujourd'hui, et c'est pour ça que la direction départementale des territoires et de la mer a été parfaitement à la hauteur, parce que aujourd'hui, il faut avoir des conditions différentes. Un rejet, c'est une usine avec un fonctionnement industriel. Quand il y a un souci, on ne doit pas simplement se résoudre à dire bah oui, c'est vrai qu'il y a eu des normes dépassées. Et nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est qu'ils puissent se déplacer sur place, dans la nature. On ne peut pas tolérer un rejet dans notre rivière sans se rendre compte de ce qui peut se passer. Il faut avoir un suivi. Et là, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ne se sont pas rendus compte de l'importance de leur rejet, de ce que ça pouvait provoquer, alors que vous imaginez une première mortalité le mardi, on était sur 100 poissons, 150 poissons, quand on fait un signalement. et on finit avec 20 tonnes, vous imaginez un petit peu?
Alors l'heure tourne, malheureusement l'heure tourne, et j'aimerais quand même qu'on termine.
C'est à mi-temps, normalement il est tranquille là.
J'aimerais qu'on termine. J'aimerais qu'on termine comment sur une note un peu plus positive.
Oui.
Donc du coup, là par contre, j'espère que les effluents c'est terminé.
Oui.
Et maintenant, comment on reconstruit une rivière? Comment on fait?
Eh bien, écoutez, moi ce que je voudrais vraiment, c'est que, comme je vous parlais tout à l'heure de cette reproduction difficile du brochet, qui est une espèce menacée, on a la chance d'avoir une frayère qu'il va falloir restaurer.
Donc, vous imaginez, c'est quoi une frayère pour ceux qui savent pas, parce que je sais que Jean-Loup n'a jamais tenu une canne à pêche de sa vie.
C'est une laiterie pour petits poissons qui sont tout mignons,
Que j'ai hâte de revenir sur votre antenne pour des choses bien plus
techniques,
valorisantes et bien plus marrantes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est sur une véritable réflexion. J'ai la chance d'être administrateur de la fondation. On a pu créer la fondation F3P, Pêche Préservation Patrimoine, et où on va vraiment essayer de redonner vie à notre rivière. Vous savez, nos rivières, elles ont besoin de poumons pour respirer, pour vivre et pour pour pouvoir accueillir la reproduction de poissons. Et donc toutes ces zones de marais, ce qu'il faut savoir, c'est que le brochet ne va pas se reproduire dans une eau stagnante. Il a besoin d'avoir
des
supports de ponte. Surtout des supports de ponte. Donc ce qui fait qu'on a besoin d'avoir à un moment donné une montée des eaux pour que toutes ces herbes soient immergées et que les femelles brochets puissent remonter. Et ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'un brochet peut faire jusqu'à 17 km pour trouver une zone de reproduction propice. Donc imaginez bien, on reparle encore de cette frayère d'amont lisse impactée, fortement impactée, morte pendant plusieurs mois. Un brochet pouvait faire jusqu'à 17 km en amont ou en aval pour venir se reproduire là. Imaginez un petit peu quand même ce qu'on vient de détruire. Enfin, ce qu'ils viennent de détruire, pardon. Et donc voilà. En fait, on a besoin d'avoir un niveau d'eau qui se maintient suffisamment longtemps pour que la femelle brochet puisse remonter, que les mâles derrière arrivent, qu'elle puisse pondre et que les mâles puissent féconder les œufs. Et après, on a donc sur ces supports de ponte, sur ces grandes herbes, ces œufs qui sont fécondés, qui vont se développer avec tout ce cycle normal du brochet, avec après un stade de fingerling où nous après on ouvre cette frayère où il y a une dévalaison de milliers voire de dizaines de milliers d'alvins de brochet. On parle toujours d'une espèce menacée quand même, hein. Vous imaginez, on peut les compter sur les doigts des mains. Enfin, aujourd'hui on en a de plus en plus parce qu'on travaille correctement au sein de la fédération, mais une frayère à brochet ce sont les poumons de nos rivières. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vraiment cette volonté. Moi, je travaille énormément là-dessus, sur le fait de pouvoir redonner aux marais toute vie. On a asséché pendant très longtemps ces zones humides pour l'agriculture intensive, pour différentes choses. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a eu beaucoup trop d'erreurs de fait. Et notre rôle aujourd'hui, c'est de les réparer.
Alors, une petite question vraiment très con. De toute façon, c'est pas moi, c'est Jean-Loup qui va la poser. Pourquoi la sèche pour une rivière? C'est de l'eau.
Alors, si jamais certains détracteurs diront que sans les rejets de Lactalis, il n'y aurait plus de rivière. Non, mais en fait, c'est une rivière qui porte malheureusement bien son nom. C'est une rivière, en fait, qui n'est jamais à sec, hein. Par contre, il faut pas se tromper. Sans les rejets de Lactalis, la rivière continuerait à couler, parce que vous imaginez bien, en amont, la sèche ne commence pas au rejet de Lactalis, hein. On va de Marcy-Robert, de l'étang de Marcy-Robert, jusqu'à la confluence avec la Vilaine. Donc imaginez un petit peu tout ce que ça peut représenter, la sèche. Mais c'est vrai que c'est une rivière qui subit fortement un étiage, surtout dans cette période, on vit une sécheresse quand même assez importante, donc c'est vrai qu'on a des niveaux assez bas, mais ce n'est pas dramatique, la vie s'y passe toujours, il n'y a pas de mortalité, voilà. Donc c'est vrai qu'elle porte son nom, mais elle n'est jamais à sec, c'est pas une rivière qui est à sec tous les ans.
Et une petite question idiote pour conclure, mais j'adore les questions idiotes pour conclure, est-ce que dans votre malheur c'est pas une chance, parce que des rumeurs disent que justement cette pollution, ça tuait du ragondin, ça tuait du cire, qui sont pas des espèces...
Ne vous inquiétez pas, je vais le ramener à la maison.
Non,
qui sont pas des espèces endémiques de la sèche, et est-ce que c'est pas une manière de se débarrasser de toutes les espèces qui ont été importées, etc., pour pouvoir recommencer quelque chose de neuf?
Alors après, écoutez, on est quand même que sur 8 km de rivière.
Non, mais il est fou.
C'est une espèce ragondin, c'est une espèce nuisible, certes. Alors, il y a eu plusieurs ragondins de retrouvés morts.
Ah voilà, c'est bien.
Ouais, mais à mon avis, il est fou, Jérémy, mais mon ami est devenu fou. Mais comment ça se fait que même le ragondin a été tué? Parce que lui, il n'est pas dans l'eau.
Exactement. Et bien, écoutez, c'est pour ça, moi, quand j'ai appelé quand j'ai alerté la presse qu'on arrivait vers une véritable crise sanitaire, c'était à cause de ça. Parce que quand je commençais à voir des ragondins morts au bord de l'eau, je comprenais plus. Le ragondin est une espèce terrestre qui peut quand même respirer en dehors de l'eau. Donc là, j'avais du mal à saisir.
Et voilà. Est-ce que vous avez pris des images des écrevisses et des anguilles qui s'échappent ?
Bien évidemment.
Ah yes. Eh ben écoutez, en tout cas, vous pourriez nous envoyer ça chez les Grignoux. On pourrait mettre ça.
Par contre, vous avez dit quelque chose tout à l'heure.
Oui.
En parlant du silure.
Oui, justement.
À vous dire, même si on ne parle pas d'espèces endémiques, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'aujourd'hui, le silure est une espèce qui est très présente dans notre département et pas que dans notre département. Et ce qu'il faut absolument savoir également, c'est que le silure lui-même est un formidable régulateur de son espèce. Aujourd'hui, prendre une position contre le silure, ce que je peux comprendre, comme pour ce que je peux comprendre également, après, ce qu'il faut savoir, c'est que le silure, c'est le seul poisson qui peut se réguler lui-même. Aucun poisson ne peut le réguler.
Vous voulez dire qu'il mangeait petit ?
Et là, voilà, ce qu'aujourd'hui, prélever ces plus gros poissons et les enlever vont ne faire que redynamiser une population. Alors que quand elle est fortement en place, moi je vous promets une chose, ce qui est très important là-dessus, c'est que le seul point positif que j'ai pu me rendre compte sur ces 8 km de poissons morts, sur ces 8 km de tuerie, on a pu échanger avec différentes personnes, différents pêcheurs, différents administrateurs d'associations, et je leur ai dit qu'est-ce que vous voyez. Et donc ils disaient, bah écoutez, on voit quand même beaucoup de silures, c'est vrai. Par contre, on a pu voir 10, 15, 20, 30 silures. Et qu'est-ce que vous voyez d'autre? Et on voyait des milliers et des milliers de gardons et de brèmes. Et là, la seule réflexion, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est Jean Gourdel, qui est un administrateur de la fédération, pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui est administrateur de la, enfin vice-président de la Golden Manice, me disait clairement, ben voilà, je pense qu'on a dit à tort que le silure était un ogre, alors qu'on a pu voir. Vous savez, la pollution, c'est la même façon de voir ce qui se passe sous l'eau.
Bah,
on n'a aucune autre solution. Donc en fait, j'ai voulu vraiment servir de ça. Et on a pu se rendre compte que le silure n'était pas l'ogre.
Une espèce de pêche électrique définitive, en fait.
Et bah, malheureusement, c'est ça. Et donc, on a pu voir beaucoup de gros silures, de presque 2 mètres, 50 kilos. Et par contre, il y avait une quantité énorme, des milliers de poissons, des milliers de brèmes, des milliers de gardons. Et il y avait bien plus de carpes, de brochets, que de silures.
Eh bien, écoutez, Jérémy, on va devoir se quitter malheureusement, mais moi, je me ferai un grand plaisir des Grignoux, d'ailleurs, petit à petit, au cours de la reconstruction, là, on parle du malheur, et s'il y avait moyen qu'au cours de la reconstruction, des événements plus positifs, vous nous en entreteniez, au moins par téléphone, ou même on pourrait vous recevoir un jour, vous ne seriez pas de garde.
Je vais venir parce qu'on m'a promis une bière si jamais je me déplaçais, donc je me promets.
Ça, c'est vrai. C'est vrai que je vous avais promis une bière. On dit une limonade, hein, normalement, à l'antenne.
Voir, en fait, on a beaucoup misé sur le développement du loisir pêche. Donc on a la première ouverture de notre première maison de la pêche dans quelques jours, donc je ne manquerai pas de vous appeler. D'accord ?
Très bien, et bonnes amitants. On va reprendre quelques minutes.
C'est gentil, merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.